chapitre 15 de 1 Corinthiens. Et le sujet de ce chapitre, c'est la résurrection de Christ et notre résurrection. Hein? Ce chapitre 15, il traite de la dernière grande question, celle de la résurrection. Apparemment, certains, comme nous dit le verset 12, ils niaient la résurrection. Voilà pourquoi Paul, il veut remettre les choses en place. Hein, parce qu'à l'église des Corinthes, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et Paul, il leur avait écrit justement pour remettre ces choses-là en place. Paul, vous savez, on l'a vu dans cet épître, il avait ouvert l'épître en disant que la base de son travail, c'était Christ crucifié. Il a dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Et il conclut dans ce chapitre 15, hein, par les couronnements de Jésus-Christ ressuscité. Hein, à commencer par Christ crucifié et couronne tout ça par Christ ressuscité. Vous savez, hein, le christianisme a un seul et unique message, c'est-à-dire Christ est vraiment ressuscité. D'ailleurs, hein, dans le livre d'Exactes, les premiers disciples, ils se saluaient. Au lieu de se dire « Bonjour, Roland », ils disaient « Christ est ressuscité ». Hein? C'était le seul message. Et c'est le message de l'Évangile. Autrement, il n'est pas différent de toutes les autres religions, hein, parce que les fondateurs ou ceux qui ont initié ces religions, ben, ils sont tous morts, un peu comme il avait dit Pierre, et pour David, les gens, ils se confient en David, il a dit David est mort, sa tombe, il est là, il est toujours à l'intérieur. Et dans ce chapitre 15, le plus premier de Paul, et de rappeler que la résurrection de Christ est un fait solidement établi, parce que on va le voir, qu'il va y avoir des témoins, et vous savez que la base dans l'Ancien Testament pour qu'une chose soit crue, c'est au minimum 2 ou 3 témoins. Ici, Paul il nous en montre beaucoup plus. Et dans ce chapitre, comme je dis, le but premier de Paul est de rappeler que la résurrection de Christ est en fait établie. Ensuite, on va s'arrêter du verset 1 jusqu'au verset 19. Ensuite, du verset 20, il traite le lien qu'il y a entre la résurrection du Seigneur et celle du croyant. Parce qu'il nous est dit, si Christ est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Et enfin, à la fin, il va traiter la question du comment on va ressusciter. Hein? Voilà, c'est un chapitre fondamental du Nouveau Testament, tellement il est clair sur ce qu'est la résurrection, sur ce qu'elle implique, et aussi pour nous après la mort. Parce que la mort, elle est là. Pour ressusciter, il faut faire quoi? Il faut mourir. Et pourquoi est-ce qu'on meurt? Ben parce qu'on est des pécheurs. Hein? Dans le psaume 89, 48, nous est dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas avoir la mort? Qui puisse sauver son âme de ce jour de mort? Non, il n'y en a pas. Ecclésiaste 8:8 nous dit encore, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sous le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans les combats. Pourquoi? Parce qu'il y a les péchés. La mort, vous savez, ne faisait pas partie dans les plans de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme, Adam et Ève, pour le faire mourir. Pas du tout. L'homme a été créé à l'image de Dieu et il pouvait jouir de l'immortalité. Dieu les avait placés dans un jardin, vous connaissez toute l'histoire, n'est-ce pas? En leur donnant tout ce dont ils avaient besoin, mais il avait mis devant eux un test. Il a dit, voilà, cet arbre qui est au milieu du jardin, hein, Vous ne mangerez pas de cet arbre. Ce n'est pas que l'arbre était mauvais, mais c'était un test. Et pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas des pantins, il ne veut pas des marionnettes. Ce que Dieu souhaite, c'est que l'homme, il aime comme lui, il aime. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Et l'homme, il est obligé de faire la volonté de Dieu pour qu'il puisse l'aimer. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à l'homme et à la femme, bien sûr? Ils ont pris le fruit. Et donc, automatiquement, la mort est venue. Car Dieu, il leur avait dit, les jours que tu en mangeras, tu mourras sûrement. Et Dieu a jugé en les chassant du jardin et en les faisant mourir. Bien sûr, c'est juste la mort physique. Mais il n'y a pas que ça dans cette mort. Il y a aussi la mort spirituelle. Et vous savez, comme je vous ai dit, la mort, il ne touche pas seulement les corps, mais aussi toute la vie éternelle. Et Dieu est pur. L'homme, en étant impur, il ne peut pas vivre à côté de Dieu. C'est impossible. Dieu est saint. Et donc, on ne peut pas. L'homme est séparé de Dieu, coupé de sa vie, de sa communion, de sa présence. Un Dieu saint ne peut pas vivre avec un homme pécheur. Il ne peut pas. Un homme impur ne peut pas survivre en présence de Dieu. On mourait, vous en souvenez, dans les lieux très saints. Il n'y avait que les sacrificateurs qui rentraient. Et encore, ils rentraient avec le sang. Pourquoi? Parce que sinon, ils ne pouvaient pas rentrer. Ésaïe 59, 2, il nous dit, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face. » Dieu, il souhaite que tout soit sauvé, mais pas avec les péchés. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important, de se tourner vers le Seigneur. Il nous le dit, Ésaïe, « Pourquoi pesez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne ressaisit pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez des mets succulents. » Des mets succulents. Vous savez, l'homme, il a péché, mais qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Est-ce qu'il les a laissés tomber? Non! Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il est venu ici-bas, sur cette terre, hein, et la parole a été faite chair, n'est-ce pas? Dieu a pris chair, il s'est incarné, il est devenu homme, et il a démontré sa capacité à accomplir les promesses de Dieu. Hein? Car la femme, il mettra au monde quelqu'un qui va écraser Satan, qui va nous libérer de cette mort dans laquelle nous étions du péché. Et c'est ce qu'il a fait en mourant sur la croix. Mais il n'est pas resté sur les tombeaux. Les morts l'ont mis sur les tombeaux. Mais Christ est ressuscité. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue par Jésus-Christ. Christ n'est pas resté dans les tombeaux. Il est ressuscité. Alors, dans Corinthiens 15, 1 à 19, on va le voir. Quelles sont les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ? Quelles sont les conséquences? Regardons les versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés, si vous ne le retenez pas dans les termes que je vous ai annoncés. Autrement, vous l'aurez cru en vain. Du verset 1 jusqu'au verset 5, il nous montre la source du salut. Mais dans ce verset 1 et 2, qu'on vient de lire, avant de passer à la description de l'évangile, du salut, la description du salut, Paul, il ressent le besoin de montrer l'importance de bien comprendre les éléments de l'évangile. L'évangile, vous savez, est comme un contrat qui unit un homme à Dieu. Et ce contrat, il donne le salut. Son péché est enlevé avec le salut. Il est déclaré juste et pleinement sanctifié. Son corps, bien sûr, mourra, mais il sera ressuscité, comme on va le voir plus tard. Mais vous remarquerez le petit mot dans le verset qu'on a lu, les deux mots, le verset, le « si ». Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, si vous voulez, l'évangile ne sauve que si les termes de ces contrats, ils sont bien assimilés. Dieu, il met souvent en garde contre une demi-adhésion. Dieu ne veut pas de demi-adhésion. Et Jésus, il nous le dit lui-même dans Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Dans Jean 8, 31, il nous est dit aussi, beaucoup viendront ce jour en disant, Seigneur, Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, dans Jean 8, 31. Et ensuite, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Encore ces deux petits mots, si. Il y a de nombreuses personnes qui prétendent être chrétiens, qui se réclament du Christ, mais parce que leur évangile n'est pas correct. Ils ne sont pas de Christ. Et Paul, on l'a vu aussi lorsque Olivier nous a fait l'étude sur les Galates. Il les met en garde, les Galates. Et il leur dit, si quelqu'un apporte un autre évangile, que celui qui est annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire séparé des dieux, maudit dans Galates 1, 6 à 9. La pureté de l'évangile est fondamentale parce que l'évangile est la porte qui permet d'accéder à Dieu. Et si la porte est fermée à clé, personne ne peut l'ouvrir. Ensuite, Paul, il explique l'évangile. Hein? Paul, il le décrit et c'est au verset 3 et 4. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Si on vous demande qu'est-ce que c'est que l'Évangile, Paul nous donne la définition. L'Évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité les trois jours selon les Écritures. Christ est le centre de l'Évangile, pas l'homme. C'est Christ qui est au centre de l'Évangile, pas l'homme. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce que Christ a tout fait est que l'homme, afin que l'homme soit libre de son péché. C'est Christ qui l'a tout fait. Nous n'avons rien fait pour que nous avions la vie éternelle, que nous puissions jouir de Dieu, de sa présence, de sa sagesse. Vous savez, il existe beaucoup de nombreux exemples parmi ceux qui se disent chrétiens, mais dont l'évangile est mélangé, comme on dit, un peu comme le lait. Il est frélaté. Hein? Il est frélaté. Il y a un mélange de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre de l'homme. Mais il n'y a que Christ qui a tout fait. Deux exemples empruntés du catéchisme de l'Église catholique. Premièrement, l'Église catholique, elle dit dans leur catéchisme, elle dit « L'Église nécessaire au salut. » L'Église est nécessaire au salut. C'est entièrement faux. C'est l'Évangile qui est indispensable, pas l'Église. Voilà ce qu'ils disent, ces gens-là. Ils disent, le décret sur l'œcuménisme du deuxième concile du Vatican est explicite. C'est en effet par la seule Église catholique du Christ laquelle est moyen général de salut que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Vous vous rendez compte de ce qu'il affirme? Ça, ce n'est pas l'Évangile. Autre chose qu'ils disent, appuyés sur la Sainte Écriture et sur la tradition, les conciles enseignent que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie du salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. C'est-à-dire que vous regardez l'Église et vous voyez Christ. C'est ce qu'ils disent, ces gens-là. C'est pourquoi ceux qui refusent d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils sauraient qu'elle est fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Est-ce que vous appartenez à l'Église catholique romaine? Si oui, vous n'êtes pas sauvés. Hein? Si vous n'appartenez pas à l'Église catholique, on n'est pas sauvé. On peut croire en Jésus-Christ, mais on n'est pas sauvé. Le deuxième exemple dit que le baptême est nécessaire au salut. Eh oui, c'est dans le baptême que l'Église catholique, il déclare à ceux qui se font baptiser enfants de Dieu. Nous savons que cela est faux. Dans Jean, il nous est dit que ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi, eux, ils ont le droit et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Église ne connaît pas d'autre moyen pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle que les baptêmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez assisté à des enterrements, ils sont certains qu'il va rentrer au paradis. Ils lui donnent la bénédiction et il rentre au paradis. Voilà pourquoi, si on ne prêche pas le vrai évangile, que tout est fondé sur Christ, c'est un évangile frélaté, comme il a dit Paul. Mais qui vous a assuré de sortir de cet évangile que je vous ai annoncé? En dehors, on ne peut pas rester. Et ces textes qu'on vient de lire sont fortement opposés à ce qu'enseigne l'évangile de la Bible, qui annonce un salut par la foi, en vertu de ce que Christ a fait, pas de ce que l'homme a fait ou il peut faire. La responsabilité de l'homme, ça c'est très important, c'est une phrase que nous devons retenir, j'ai bien aimé, je vais vous la lire. La responsabilité de l'homme n'est pas de faire, mais de croire. C'est par la foi. Dieu est seul intervenant dans notre salut. Dieu ne demande que qu'on lui fasse confiance. Beaucoup de personnes cherchent à peser leur crainte de la mort. Vous savez que beaucoup ont peur de la mort. Mais il y a une seule façon de ne pas avoir crainte de la mort. C'est se dire que Christ est ressuscité. On n'a pas besoin de se flageller, comme on dit, ou de faire autre chose, d'apporter autre chose au salut. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. Et ça, c'est une grâce. C'est ce que nous prêchons. Ensuite, on va voir versets 5 à 7, on va voir la source de transformation. Lisons les versets 5 à 7. 5 et 6 et 7, oui. Il dit, « Et il a été vu par ses faces, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. » Oui, la résurrection, c'est un fait établi. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoins. Parce qu'il y a des témoins. Hein? Les premiers jours de la résurrection, Christ, il s'est montré à Pierre, il s'est montré aux deux femmes, puis il s'est montré aux 12, ensuite aux 500 personnes d'un coup. Et puis, ils nous disent à Jacques, les demi-frères de Jésus, de Christ, qui n'étaient pas croyants. Ce qui l'a converti, c'est sa résurrection. Et c'est là qu'il s'est convaincu que Jésus était vraiment le Messie, qu'il était le Fils de Dieu. Et nous savons ce que Jacques est devenu. Il était un incroyant et il est devenu l'évêque de Jérusalem. Et il a été mort martyr. On l'a appelé l'homme au genou de marbre. Pourquoi? Parce que il montait toutes les marches, il les montait à genoux, en implorant le nom de son demi-frère. Peut-on dire que ces apparitions, ils sont des hallucinations? Et voilà, c'est là aussi, beaucoup de gens, ils disent que c'est des hallucinations. Mais les hallucinations, généralement, ils ne touchent pas les sens. Parce que Jésus a mangé, c'était pas seulement une hallucination. Thomas, il l'a touché. Et il faut savoir qu'une hallucination, il ne transforme pas la vie. Mais beaucoup de vies ont été transformées lorsque Christ est rentré dans le cœur. Le Christ ressuscité, le tombeau, il était vide. Et le Christ ressuscité, il peut transformer les vies, comme il a transformé les nôtres. Hein? C'est le jour où Christ, nous l'avons laissé entrer dans notre cœur, qu'il a transformé la vie. Et si vous lisez le verset 8, hein, regardez ce qu'il est dit. « Après eux tous, hein, il s'est fait voir à moi, comme l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Paul, il avait dit lui-même ce qu'il était auparavant. Il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent en Timothée 1,13. Cet homme méchant que Dieu a pris, il a sauvé et il a transformé pour en faire quoi? L'apôtre qu'on connaît, l'apôtre qui a évangélisé l'Asie, qui a évangélisé toute l'Europe, qui a été jusqu'à Rome et même en Espagne. C'est cet homme-là qu'il a été transformé. Pourquoi? Parce qu'il a vu le Christ ressuscité. Et au verset 11 encore, il rajoute, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. » Pourquoi il leur dit ça? Parce que le message de Christ ressuscité, il transforme la vie. Il doit la transformer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accepte Jésus ressuscité, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de parler. Et c'est ça c'est un miracle. C'est un miracle. Paul, il était un blasphémateur, un persécuteur. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, voilà, les grands apôtres dont chacun de nous, nous devons l'imiter. Il est dit lui-même, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. Et ensuite, il continue. Ils vont voir la source de l'espérance, versets 12 et 13. Voilà ce qu'on lit. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Paul, ici, il s'indigne même que l'on puisse mettre en doute une telle réalité. Ce n'était pas nouveau. Les Grecs d'Athènes, vous en souvenez, lorsque Paul a commencé à parler de résurrection, ils l'ont laissé tomber. Les rois Agrippa, lorsqu'on lui a parlé de Christ ressuscité, il lui a dit, mais tu es fou, Paul. que tu veux nous convaincre de devenir chrétien. Voilà. Et les Corinthiens aussi, hein, ils étaient confus. Certains croyaient que Christ est ressuscité, mais ils n'étaient pas très sûrs de leur propre résurrection. Et d'autres, ils mettaient en doute la résurrection. Voilà pourquoi Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, nous non plus n'avons, ne ressusciterons pas. Donc, nous n'avons aucune espérance. Notre espérance de chrétien, elle est liée à la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Si Christ, vainqueur de la mort, hein, il nous rend vainqueur de la mort, c'est plus terrible pour chacun de nous. La porte qui était fermée, elle s'ouvre avec une vie avec Dieu. Et au verset 14, elle dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » Verset 15, « Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ. » Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent pas, verset 16, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous savez, voilà pourquoi la résurrection, c'est notre espérance. Le christianisme, il peut demeurer ou tomber avec la résurrection de Christ. Et dans ces versets, Paul, il donne quatre conséquences logiques si Christ n'est pas ressuscité. Premièrement, si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons aucune espérance d'une vie avec Dieu. Deuxièmement, les apôtres sont des menteurs, et nous aussi, lorsque nous allons témoigner, évangéliser. Et la Bible n'est pas digne de confiance. Troisièmement, notre foi est inutile. Ben oui, à quoi bon croire si nous ne ressusciterons pas pour rester dans la tombe toute la vie? Et quatrièmement, il nous est dit aussi que nos péchés, ils ne sont pas pardonnés. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici, là? Allons dehors, même si c'est les couvre-feu. Hein? Exemple, amusons-nous, jetons-nous dans les plaisirs du monde. Qu'est-ce que nous faisons? Nos péchés, si Christ n'est pas ressuscité, nos péchés ne sont pas pardonnés. Car le Christ qui promettait le pardon à sa résurrection s'est échoué toutes ces choses-là. Ceux qui sont morts dans la confiance en Christ sont perdus. Tous les gens qui ont mis leur confiance en Christ, ils sont perdus. Christ a ouvert la voie de la mort. Et au verset 19, il nous le dit, hein, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Eh oui, voyez, la belle explication, « Nous sommes les plus malheureux du monde. » C'est vrai que les gens, lorsqu'on leur parle de Christ, de se convertir, on leur dit, mais j'ai tellement de choses à vivre encore, de belles choses là. Vous les chrétiens, vous vous privez. Voilà, c'est ça. Et il dit, Paul, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà pourquoi la plénitude de la vie, vous savez, hein, ça commence après la mort, ou bien après le retour de Jésus-Christ. La vie sur terre est faite de souffrances, de déceptions, de douleurs. Certains en subissent beaucoup plus que d'autres. Si cela n'était pas vrai, autant vivre dans les plaisirs, n'est-ce pas? Mais nous avons en nous cette espérance. Pourquoi nous confier en Christ? Pourquoi le servir? Pourquoi l'aimer? Pourquoi aimer ceux qui nous entourent, nos frères et sœurs? Pourquoi le sacrifice d'une vie droite? Parce que c'est un sacrifice avoir une vie droite, hein, par rapport au monde qui nous entoure. Hein. Parce que tout ceci ne dure qu'un instant. Qu'un instant. Et tout ce que nous faisons pour Christ, vivons pour Christ, ça comptera pour l'éternité. Voilà le message que Paul nous donne dans ces chapitres 15, hein, 1 à 19. Hein, les prochaines semaines à venir, on va détailler, Paul il va détailler ce qui va se passer après la mort, ce qui se passera dans la période du retour de Christ. Tout est dans ces chapitres. Voilà pourquoi j'aimerais conclure cette étude avec deux versets. Hébreux 2, 14, il dit « Ainsi donc, puisque les hommes sont faits de sang et de chair, Christ est venu en chair et en os, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait les pouvoirs de la mort, c'est-à-dire les diables, et de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Christ, avec sa résurrection, il nous a libérés. Et dans Jean 5 aussi, en Jean 5, il nous dit, versets 11 et 13, « Et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. » Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà, chapitre 15, 1 à 19. Paul nous explique la résurrection, la source du salut, la source de l'espérance, la source de ce que Dieu il va accomplir dans notre prochaine vie, qui sera ou à notre mort ou au retour de Jésus-Christ. Voilà, on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, comme je vous ai dit, on va voir exactement la suite de cette mort et comment cette résurrection il va se passer. Ça, c'est le chapitre, un des chapitres plus beaux, plus principal de la Bible pour nous qui sommes des chrétiens. Parce que ce chapitre nous donne de l'espérance. Il nous donne la joie de pouvoir vivre ces années que le Seigneur nous donne. Alors, allons-y gaiement, comme on dit, et vivons la vie de Christ dans notre vie. Hein? Voilà, amen.